Alors, Hans van Leuf, je ne sais pas si je prononce correctement.
Non, moi je sais.
Dites-moi.
c'est un peu difficile. C'est, en suédois, ce serait Hans van Leuf. Bon, bon,
c'était très proche.
C'était pratiquement
ça. Comme ça, on a entendu pour l'enregistrement.
Voilà, très bien.
Et professeur à l'Université de Stockholm, il s'intéresse à la poétique réaliste et a publié, entre autres, de nombreux travaux sur Stendhal, Maupassant, Daudet, Zola et Flaubert. Ses travaux portent actuellement sur la réception et la traduction du réalisme et du naturalisme français en Suède. Et il va nous présenter une communication intitulée « La médiation de Madame Bovary en Suède, traduction et réception ».
Merci. Merci d'abord à Florence de l'invitation. Et ça va être un peu difficile de passer après à Sushi. Ce sera beaucoup plus superficiel, c'est pas du tout le même niveau. Ça peut être bien aussi peut-être avant le déjeuner, ce serait plus facile à digérer. Donc je vais parler de la médiation de Madame Bovary en Suède. J'avais travaillé un peu là-dessus dans un projet il y a quelques années, donc je vais donc profiter de cette occasion pour reprendre un peu des données. Et voilà. Ce sera assez classique, hein, un relevé des traductions, des éditions, des adaptations de Madame Bovary en suédois. Là, vous voyez l'illustration de la dernière édition. Et je vais me centrer sur deux questions, en fait deux époques, deux aspects qui me semblent les plus intéressants, les plus pertinents. C'est tout d'abord la première traduction du roman, donc de quelqu'un qui s'appelle Lundqvist en 83. On va revenir sur voilà, évident décalage hein, de presque 30 années entre la publication en France et en Suède, et la traduction la plus récente qui est de Bo de Gaulle de 2012. Ensuite, bien sûr, on parlait de l'introduction de Flaubert en Suède qui donc, est contemporain à la première traduction de Madame Bovary, et le statut actuel de Madame Bovary et de Flaubert en Suède. Donc je passerai sur tout ce qui se passe plus ou moins au XXe siècle. Il me semble que ce sont les aspects les plus intéressants. Bien sûr, il faudra mettre en rapport à la première traduction et la traduction de Flaubert, tout comme on va voir la traduction la plus récente et le statut actuel de Flaubert et de Madame Bovary en Suède. Et effectivement, la réception en Suède n'est pas particulièrement importante. Hein. On est le même, hein. C'est pas plus important que le Danemark ou la Pologne. Le Japon, etc. Donc, je ne présente pas ces données percées hein, pour savoir hein, si on a traduit en 83, 82, Madame Bovary, c'est pas ça l'essentiel. Mais j'espère pouvoir articuler quelques réflexions méthodologiques plutôt par rapport à la réception qu'on pourrait peut-être donc, appliquer dans d'autres études. Donc, simplement, je tiens à le souligner. C'est un sujet, au fait, déjà étudié. Je tiens aussi à souligner les études antérieures, parce que je vais reprendre certaines données. Il y a une étude déjà sur Madame Bovary en suédois, remarques sur les traductions et leurs auteurs. C'est en français, donc c'est dans romantisme, je pense. Donc c'est accessible. Au fait, c'est les préliminaires d'une thèse qui n'a jamais été poursuivie. Donc ce sont des remarques assez générales, hein, vous savez au début d'une thèse, hein, c'est des remarques assez générales. Mais après il y a une étude qui s'appelle Mospay 2015, et les traductologues, donc c'est beaucoup plus poussé, plus détaillé par rapport aux stratégies utilisées des traducteurs hein, dans 6 traductions suédoises de Madame Bovary. Malheureusement c'est en suédois, hein, donc c'est difficile à lire. Et bon, j'ai déjà fait une étude très générale sur la réception de Flaubert en Suède. Et c'est noté 2018, mais en fait, le travail avait été fait à peu près 2005-2010 pour un travail collectif qui a tardé à être publié, le colloque a tardé, etc. Donc aujourd'hui, j'ai l'occasion de mettre à jour aussi plusieurs données que j'ai pu compléter quand j'ai revu le matériau. Et Je ne pense pas que ce soit que j'ai commis des erreurs quand j'ai énuméré les statistiques de ce premier article, mais je pense aussi que les bases des données s'améliorent petit à petit, de plus en plus de références qui entrent. Et donc, je pense que les statistiques, maintenant, sont un peu plus fiables, j'espère en tout cas. Après, j'annonce ce qui aurait dû être une communication la semaine dernière, mais qui a été annulée hein, à cause de Corona. Les variables de genre littéraire, où je discute la première traduction de Madame Bovary en suédois. Et tout de suite, une petite parenthèse, même pas une parenthèse, mais une déclaration par rapport à ce titre, variables de genre littéraire. C'est une prise de position de ma part. Il me semble que les études de réception de traduction sont souvent bien fondées, bien sûr, dans l'approche sociologique, selon laquelle il y a un certain climat littéraire ou certaines conditions générales qui détermineraient hein, chaque traduction, chaque édition. Je peux souvent lire dans les études que, bon, on a traduit de telle façon parce qu'à cette époque. Et je pense que c'est un peu trop simple. Je pense que le facteur individuel joue beaucoup plus qu'on ne le croit. Hein. J'ai étudié Zola en suédois et on peut voir des différentes traductions. Il y a quelques années d'écart, mais ils sont très différents. C'est par rapport au traducteur, c'est par rapport au courage de l'éditeur, etc. On ne pourra pas dire que les années 1880, toutes les traductions sont. Bon, ce sont des propos que j'entends souvent. Quand je vais parler de la traduction, on m'a dit, de toute façon, au 19e siècle, il n'y a pas de bonne traduction. Donc, voilà, par exemple. Donc les sources. Il y a de très bonnes sources. Il y a une base de données qui rassemble les données des bibliothèques universitaires de Suède, au fait qui est une base de données meilleure que tous les catalogues traditionnels ou les cartons. Et ensemble, hein, j'ai vérifié par rapport à Zola, par rapport à Flaubert. Il y a un portail de recherche où il y a une publication des universités chercheurs en Suède, mais il y a aussi les mémoires de master, de licence, de maîtrise, qu'on peut trouver si quelqu'un travaille sur Flaubert, par exemple. Et la numérisation très intéressante de la presse par la Bibliothèque royale. Donc la Bibliothèque royale, c'est l'équivalent de Bibliothèque nationale en France. Et à partir donc de la presse du XVIIe siècle en Suède. Et je vous montre, peut-être vous pouvez pas voir, mais en tout cas, on peut faire des recherches assez simples sur un nom. Et heureusement, Flaubert, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'appellent Flaubert. C'est bien Maupassant, Flaubert, Goncourt, ce n'est pas un nom aussi fréquent. Même si on cherche Zola, on peut tomber sur une annonce de Gorgon Zola. Je l'ai fait, en fait. Mais bon, Flaubert, donc on cherche un mot et on a donc quand je dis quotidien, ça peut être donc tous les 3 jours que ça sort, hein, pas le week-end, c'est pas forcément chaque jour, mais bon, il y a une cinquantaine déjà de journaux, au moins, si je me souviens bien, les années 1870-80. Donc on a Flaubert en jaune en bas, vous voyez. Après on a en jaune l'article où on trouve le mot. Et après, de petits rouges, pas si ça se voit, mais de petits rouges, c'est Flaubert qu'on a trouvé. Donc, on peut tout de suite voir si c'est un grand article ou bien annonce de journal, et si Flaubert est mentionné plusieurs fois. Et là, on peut déjà voir est-ce que ce sera un article important. Et ici, ça se voit mal, mais dans le premier, c'est le médecin Flaubert, donc je comprends que ce n'est pas Gustave Flaubert, mais après, dans quelques-uns de ces entrées, on parle de romans archéologiques, ben, on comprend que c'est Salammbô. Et l'autre aussi, Carthéginois. Ah, d'accord, je vois que c'est sans doute Salammbô, ça peut être intéressant. Moi, je voulais simplement mentionner, c'est une source assez précieuse où on peut trouver pas mal d'articles de presse et de la réception contemporaine. Ou pas contemporaine, parce que, presque contemporaine, qu'est-ce qu'on va dire, parce que, comme on va voir, Flaubert est introduit assez tardivement en Suède. Donc, juste autour de sa mort. En tout cas, voilà les traductions que j'ai trouvées dans cette base de données. 11 traductions de Madame Bovary et 39 éditions, si j'ai bien compté, si tout est enregistré, donc avec des réserves. Et ce n'est pas tout à fait les chiffres que j'avais trouvés dans l'autre article, en fait. Et on voit qu'il y a certains qui sont réédités. Et réédition, ce n'est pas forcément parce que ce sont meilleures traductions, c'est à cause des droits d'auteur, des droits de maison d'édition, bien sûr. Hein. On notera ce que j'ai mis entre crochets, parfois livre sonore, livre électronique, tendance très claire, je pense peut-être par rapport au colloque dont tu m'avais parlé, Florence, sur les dernières années, tendance très claire en Suède, pour Zola, pour Maupassant, pour Flaubert. Il y a de plus en plus d'éditions électroniques et aussi de plus en plus d'applications où on écoute le roman. On écoute, sans doute ça existe en France aussi, c'est très populaire en Suède. Et les applications majeures ont tous Madame Bovary en traduction, parfois en plusieurs versions. Et parfois aussi en anglais, parce que la plupart des Suédois parlent anglais. Donc on voit qu'il y a... Si je veux dire, la fin des années, les années 90, donc 1990, le début de notre siècle, on peut voir qu'il y avait donc une édition imprimée et peut-être aussi quelque chose d'électronique ou de numérique. Et là, c'est le contraire. C'est plutôt qu'il y a d'abord une édition électronique, numérique et peut-être quelque chose d'imprimé. Mais l'imprimé sera plutôt quelque chose un peu marginal. On va prendre peut-être. Pas le grand roman, mais une petite nouvelle dans une petite maison d'édition indépendante qui va publier. Donc cela. Bon, mais en fait, si on regarde d'un peu plus près, ben j'enlève hein, quelques traductions, parce que la traduction anonyme de 1912 est largement abrégée, hein, et pas simplement par-ci par-là, mais vraiment c'est très abrégé. Lindroth en 2007, c'est simplifié, abrégé énormément. C'est surtout lecture facile, hein, vous connaissez ces éditions. Et on a aussi Strömbergonas on the Bank, qui ce sont des reformulations d'anciennes traductions. Ce ne sont pas des vraies traductions originales. Et même Bank a fait la traduction de Madame Bovary, mais ne parle pas français. Il ne maîtrise pas le français. Ce qui est assez intéressant, parce qu'elle a refait ça à partir d'une autre traduction. C'est Hanson dans cette étude que j'ai mentionnée qui a contacté cette traductrice, qui est traductrice, mais bon, pas du français. Voilà. Mais c'est une maison d'édition qui, voilà, on va faire une édition, et voilà. Et donc, ce sont ces autres traductions, c'est aussi les six traductions qui restent que Mosbach, que j'ai mentionné, a étudié le style. Alors, qu'est-ce que ça vaut, ces traductions? J'essaie de faire un schéma. Ce n'est pas du tout scientifique. Et j'essaie de faire les tailles moi-même par rapport au nom, mais c'est pour avoir une sorte d'impact visuel. Et il y a une domination flagrante de Madame Bovary en Suède, comme je crois peut-être dans la plupart des pays. Hein. Et Madame Bovary, donc 39 éditions, là c'est que des éditions, ce n'est pas donc des traductions, mais des éditions, ça peut être imprimé ou non, et par rapport aux autres œuvres. Et donc, Bouvard et Pécuchet n'est traduit qu'en 2006. L'éducation sentimentale, 1951. Je n'ai pas trouvé d'autres traductions. Salammbô, déjà 85. Je veux revenir à ce sujet que Flaubert, d'abord, c'est l'auteur de Salammbô. Après, c'est Madame Bovary qui... Non, moi, je vais vous en parler tout à l'heure. Un cœur simple, 1919. Soit un cœur simple, beaucoup d'éditions d'un cœur simple, mais aussi parce que cette nouvelle figure parfois dans des anthologies. Les meilleures nouvelles du monde, les meilleures nouvelles françaises, donc il y a un cœur simple. Là. Ou bien c'est un cœur simple seul, et un cœur simple, ça marche aussi pour les éditions applications, hein, où on écoute beaucoup de nouvelles et des récits courts dans ces applications. Donc beaucoup d'éditions pour un cœur simple. Mais par rapport au roman, vous voyez hein, que Madame Bovary, c'est vraiment, domine beaucoup. Alors, par rapport à la traduction, je voudrais aller dans le sens de la traductologie descriptive, ce qu'on fait de plus en plus. Et je pose cela, et on oppose cela, à la traductologie plutôt normative, c'est-à-dire cet autre type d'approche où on prend tel passage, tel mot, et on dit qu'à la page 324, le traducteur s'est trompé parce qu'il n'a pas compris. Et après, on dit qu'on aurait dû traduire autrement. Et oui, sans doute, il aurait dû faire ça, mais il y a toujours des défauts dans une traduction. Et je pense que ce type de traductologie normative, déjà, je pense que ce n'est pas de la traductologie, parce que, en fin de compte, c'est une étude de texte. On fait une analyse de texte pour voir que voilà comment il faut comprendre ce passage, et voilà comment on aurait dû le transmettre cela en telle langue. Mais ça nous dit très peu, ou du moins peu, sur la traduction en général. Quelles sont les conditions de la traduction en général? Quelles sont les difficultés par rapport à ce roman, par rapport à cet auteur, par rapport à cette culture? Bah déjà, tout ce qui est culturel, si je compare la Suède à la France, par exemple, si on prend le mot « grève », en Suède, c'est exceptionnel. Déjà, on aura déjà une toute autre conceptualisation du mot grève dans les deux cultures. Si on prend le mot forêt, on ne va pas penser au même type de forêt. Même en France, en habitant dans un endroit différent, sans doute au Japon, on ne va pas la forêt. Ou si on prend le jardin à la française, à l'anglaise, au Japon, n'est-ce pas? Que déjà, il existe plein de difficultés de traduction par rapport à historisation, par rapport à explicitation. Et je pense qu'on passe un peu à côté de cela en se centrant sur tel passage où le traducteur a mal compris, etc. Donc je suis pour cette traductologie descriptive qui résonne un peu plus autour des stratégies adaptées par les traducteurs. Et on pourra comparer avec la linguistique normative descriptive, c'est un peu la même chose. Et on parle parfois de traduction fidèle ou traduction libre. Et j'ai mis cela entre guillemets, parce que bien sûr, il existe des traductions libres où on refait plus ou moins les traductions. Je sais qu'il existe des pays où on déplace l'action vers le pays récepteur. Un collègue japonais qui a parlé d'un roman de Zola qui se déroule à Yokohama, parce qu'on a complètement déplacé. Là, c'est très libre. Mais ce n'est pas dans ce sens que je vais utiliser ces termes, fidèle et libre. C'est fidélité dans le sens où le traducteur laisse la langue source dominante, c'est-à-dire la langue d'origine dominante. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le traducteur choisit de garder la structure un peu idiomatique de la langue source. C'est-à-dire que si c'est traduit en suédois, on va sentir que c'est pas vraiment... On sent qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. On sent que c'est un peu étrange. On dirait un peu singulier, sont les formalistes russes. On sent que le texte n'est pas tout à fait, ne coule pas tout à fait comme il devrait en suédois. Donc on respecte, on imite, on garde un peu du texte original. Pas du point de vue du contenu, ça peut être du point de vue du contenu, mais aussi avant tout de la forme. Et ça veut dire aussi que la culture source peut être dominante. Donc on garde plus d'appellations idiomatiques et culturelles. Bon, si un roman français, on va prendre le métro, on va prendre le mot métro, en disant que, bon, il y a des Suédois qui savent que ça s'appelle, le métro s'appelle métro. On ne va pas prendre le mot en suédois qui est tunnelbana, mais on va prendre le mot métro. Ça, c'est un exemple. Et aussi, on n'explicite pas les culturèmes, donc c'est-à-dire les entités signifiantes dans une culture que tout le monde connaît, qui appartient à cette culture. On laisse cela, on dit que bah, soit le lecteur va comprendre ou non, mais on ne va pas expliquer ce que c'est. Comme j'ai vécu dans des familles françaises où quelqu'un a dit « tu as acheté le pain » et c'est implicite « tu as acheté le pain qu'on va avoir pour le repas ce soir ». Sans doute une baguette. Et dans une telle traduction, ce serait « tu as acheté le pain ». Mais dans une traduction qui se veut un peu plus... explicite, ce serait d'acheter le pain pour le repas ce soir. On n'aurait pas ajouté cela parce que peut-être que le lecteur ne comprend pas. Voilà. Donc libre, ce serait donc le contraire. Il ne s'agit pas d'être libre, de prendre un autre contenu, mais libre dans le sens où la langue cible, dans ce cas-ci le suédois, est dominante. C'est-à-dire que c'est le type de traduction où on sent que c'est une bonne traduction, on ne voit pas que c'est une traduction. Voilà. Par rapport à l'autre type, on sent que c'est un peu étrange. Hein. Et pareil, la culture cible dominante, on va pas dire rue d'Ulm, on va dire Ulm Gatan, c'est ce qu'on suédois, c'est-à-dire qu'on traduit, et bien sûr, donc on explicite les culturels. Ça, c'est deux stratégies différentes. Dans ce sens, fidèle et libre. Ça devient. Cette traductologie descriptive devient plus opérative par rapport au champ littéraire, j'aurais dû écrire. Et par rapport aux questions tant débattues de centre-périphérie et par rapport à l'hypothèse des nouvelles traductions dont je vais parler. Et, bon, vous connaissez la discussion sur le centre et la périphérie, peut-être un peu simplifiée parce que on pourra dire que la Suède est la périphérie de la France, mais la Suède peut être le centre de la Norvège, etc. Donc c'est un peu emboîté et peut-être plus compliqué. Mais en tout cas, on va dire qu'une sphère culturelle dominée va avoir certaines relations par rapport à notre sphère qui est dominante, ici, la Suède, France. Après, il y a l'hypothèse des nouvelles traductions qui dit que la première traduction d'un texte sera plus libre. Et pourquoi ? Donc libre dans le sens où sera plus adoptée à la langue source, à la langue cible et à la culture cible. Et parce que quand il y a un nouvel écrivain qui n'est pas connu, qui écrit peut-être d'une façon dont on n'a pas l'habitude, on va l'adapter un peu au goût. Et on va faire passer cela de façon le plus souple possible, on va dire, au lecteur. Donc on va transformer. C'est une hypothèse. Aussi, hypothèse de nouvelle traduction, que plus on traduit, mieux ce sera. Et troisièmement, donc ça suit un peu cette première constatation, que si le nouvel écrivain qui n'a pas de statut littéraire encore, qui n'est pas encore considéré comme un maître ou incontesté, ou qui n'a pas beaucoup de prestige, on l'adapte, on change un peu. Une fois qu'on a compris que c'est un grand auteur, hein, on sauvegarde ses particularités parce que c'est quand même un grand auteur. Hein, voilà. Et bon, ça c'est évidemment particulièrement pertinent pour Flaubert, où le style est tant important. Alors, je me réfère à Mospel, qui est donc traductologue, qui est entré en détail en faisant l'analyse grammaticale des différentes structures pour comparer en quantité combien de phrases est-ce que les traducteurs ont sauvegardé, ou les traducteurs ont sauvegardé la syntaxe de Flaubert, hein, dans le détail. En fait, la traduction la plus fidèle, c'est Baudouin, et c'est la plus récente. Et c'est exceptionnel parce que parfois c'est même le même nombre de syllabes que dans Madame Bovary. Hein. Il a carrément essayé de trouver, et c'est très difficile entre les deux langues. Il a vraiment les fameux points-virgules, il les a conservés tous. C'est-à-dire qu'il a suivi le syntaxe au pied de la lettre, hein. Il n'a pas changé. Et presque toujours aussi les phrases, les points. Alors qu'on peut voir dans Lundqvist, que j'étudie un peu, on peut voir qu'il déplace un peu les points par rapport à la langue suédoise, parce que Lundqvist est donc plus proche de la langue suédoise. Alors que Baudouin dit qu'on sent que c'est français, en fait, quand on lit le texte. Si on lit le français, c'est comme si le français sortait comme une sorte de palimpseste derrière la traduction, si je peux dire. Mais après, elle montre que Lundqvist, qui est le premier, n'est pas du tout le plus libre, hein, vous voyez. Alors, par rapport à ces centres-périphéries, ces hypothèses, alors j'ai fait un peu de flèche, ça marche bien pour Baudouin. C'est la traduction la plus récente. Et aussi, Flaubert, grand auteur, un des plus grands auteurs, donc, confirmé, consacré, il faut respecter son style. Ça marche très bien. Et ça marche aussi d'une certaine façon pour Lundqvist, 1783. On avait dit qu'il était plus donc, libre que Baudouin, mais Baudouin, c'est exceptionnel dans son type de traduction. Mais là, il y a autre chose. Il est assez proche, je pense, pour deux raisons. Déjà, à cette époque, et le suédois employait beaucoup plus de termes venus du français qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est beaucoup plus influencé par l'anglais. Alors que là, ceux qui étaient intellectuels, hein, la France était une référence évidente. Et d'ailleurs, quand on parle, et quand je parle de traduction et l'impact de Flaubert en Suède, bien sûr, l'élite intellectuelle lisait le français. Il lisait en original. On peut trouver des annonces dans les journaux de l'éducation fondamentale, par exemple, en français. Mais c'est traduit en 1951. Donc, il ne faut pas croire que les gens cultivés ne connaissaient pas Flaubert parce qu'il n'y avait pas de traduction. Simplement le souligner. Alors, le français et la langue française est plus proche à cette époque, donc il peut garder Vous savez, quand il y a, on peut avoir un nom, je ne trouve pas d'exemple, mais quand on peut avoir un mot qui est même d'origine et qui est à peu près le même mot qu'en français, mais on peut avoir aussi un mot d'origine allemande. Aujourd'hui, j'ai plus tendance à prendre le mot allemand, anglo-saxon, alors qu'à cette époque, c'est plus naturel de prendre le même mot qu'en français. Et autre chose aussi, par rapport à Lundqvist, plus proche, plus fidèle, bien sûr, les lecteurs 83 en Suède, la société beaucoup plus proche, la société des peintres, Madame Bovary, donc moins besoin d'expliciter. Mais après, c'est un peu étonnant, quand je dis j'ai fait une, la première traduction d'un texte la plus libre, non, la traduction la plus libre, c'est celle de Bâle en 56, selon mon spectre. Et ce n'est pas du tout la première traduction. Donc là, ça ne marche pas. Par contre, ça marche toujours avec l'idée de centre, de périphérie, à condition de penser au terme de dominé-dominante. Parce que vers les années 50-60, même si la France garde tout son prestige en Suède du point de vue culturel, la Suède a monté une société modèle. Et la Suède a un nationalisme prononcé du point de vue où on crée ce fameux modèle suédois, hein, qui n'existe plus d'ailleurs, je vous informe. Mais on croit que ça existe, mais ce n'est pas vrai. Mais bon, peut-être là aussi, c'est associé au type de traduction, qu'il y a une sorte de fierté nationale que nous, qu'on n'a pas besoin d'adapter. Donc ça marche avec centre périphérie, mais pas l'hypothèse des nouvelles traductions. Ensuite, je voulais dire un mot sur le mot censure qui revient dans les textes, sur les traductions. Il n'est pas vraiment question de censure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appareil de l'État qui censure, mais il s'agit plutôt d'une politique éditoriale prudente. C'est l'éditeur qui doit juger est-ce que j'ose publier. Et on dit lors de la première traduction, dans la presse, il y a un compte-rendu que l'éditeur a eu le courage de publier Madame Bovary, tant c'était considéré scandaleux. Et il y a un autre qui dit que, voilà, on n'aurait pas dû traduire Madame Bovary parce que c'est trop immoral, mais de toute façon, personne ne va le lire, donc c'est pas grave. Hein. voilà. Einstein, elle dit, je pense de façon un peu trop hâtive. Elle dit que Lundqvist systématiquement et fréquemment omis aussi bien des mots, des phrases entières que des paragraphes entiers. Je n'ai pas étudié en détail cette traduction, j'ai étudié quelques parties. Et moi, je n'ai pas eu cette impression. Je trouve qu'elle va un peu loin dans son propos, en fait. Il y a d'autres traductions où il y a beaucoup, beaucoup plus de censure, omission. Par exemple, dans l'Assommoir de Zola. Einstein dit qu'il y a les tableaux lascifs qui ont été supprimés et la description superflue et ennuyeuse. Ce sont deux choses qui reviennent dans le texte sur les traductions. Oui, on supprime ce qui choque, on supprime ce qui est un peu long. Et moi, et la première traduction intégrale, au fait, c'est 1956. Jusque-là, il n'y a pas de... Parce que souvent, on reprend les anciennes traductions. Ici, là, dans la première traduction, on n'a pas tout mis. Ce n'est pas sûr que le prochain traducteur s'en rend compte. Voilà. Bon, moi, j'ai mis un peu des critiques contre ce mot systématique. Je suis peut-être un peu dans le détail, mais systématique, pour moi, ça donne l'impression que un certain type de tableau est toujours supprimé. Et ce n'est pas le cas. Einstein, elle constate elle-même, c'est un peu contradictoire, parce qu'elle constate que, par exemple, la scène de fiacre est traduite. C'est quand même la scène qui est le plus, n'est-ce pas, plus commentée. Il y a d'autres passages pas traduits, on peut censurer. Et aussi, les descriptions superflues ennuyeuses. Quelles descriptions sont superflues? C'est extrêmement difficile de dire que pourquoi telle description, pas une autre. Donc, je pense qu'on a tort de dire que ce type de passage ne passe pas, parce que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas non plus le cas pour Zola, ce que j'ai étudié, l'Assommoir et Germinal, en suédois. Par contre, je voudrais proposer l'image, je pense qu'on dit en français qu'on élague des arbres. Enfin, élague, voilà. Il y a trop de branches, il y a trop de rameaux. Donc on enlève une branche, on aurait pu enlever une autre. Et c'est un peu ce qui se passe, je pense, dans cette traduction, notamment chez Zola. Oh là, il y a trop. On enlève un peu. Mais c'est pas. Il y a du contenu choquant qui reste, il y a du contenu choquant qu'on enlève. Hein. C'est-à-dire que de cette façon, il y a. On élague le texte, mais il n'y a pas, selon moi, une omission systématique. Tel type de mot n'apparaît pas, tel type de scène n'apparaît pas. Ça, en tout cas, mes études ne le montrent pas. Est-ce que j'ai le temps de parler un peu de la réception aussi? Je t'avais dit, tu m'arrêtes parce que je n'ai pas de manuscrit, je n'ai pas l'habitude de lire un texte, donc, mais avec le risque donc, de dépasser le temps. Un peu sur la réception de Madame Bovary et de Flaubert. Il y a plusieurs phases de Flaubert en Suède. Et là, vous voyez que ça commence en 63. C'est un peu étonnant, mais c'est premier article dans la presse. Hein, et je rappelle que c'est au moins une trentaine, aussi déjà 1760, peut-être plus, de journaux. Première occurrence, 63. Et Flaubert est parfois, il a l'épithète, l'auteur de Salammbô. Flaubert, l'auteur de Salammbô, et un petit anneau. Mais on parle très peu de Flaubert. Après, avec la traduction de Madame Bovary, il est l'auteur de Madame Bovary et de Salammbô. Jusqu'à au moins 1930. Hein, parce que, si vous vous souvenez, il y avait plusieurs éditions aux traductions des années 1920. Et c'est pareil pour Salammbô qu'on réédite ou qu'on retraduit. Et là, ce sont les deux grandes œuvres. Après, quand j'étudiais la suite, la progression de la réception, tout d'un coup, les années 50, on parle de Madame Bovary et l'éducation sentimentale. Ce sont les deux grandes œuvres. Et on ne parle plus de Salammbô. Donc j'ai mis point d'interrogation. Je ne sais pas où ça change. Et je serais très curieux de savoir s'il y a un changement pareil en France. Oui, donc, parce que c'est souvent le cas que, en tant que culture dominée, justement, les critiques en Suède miment les critiques en France. Bon, c'est très intéressant de savoir. Et à partir des années 70, je vois, on parle de Madame Bovary et rien d'autre en Suède. Là, j'arrive à la consécration de Flaubert en tant que le grand auteur. D'abord, la période 50-80. Comme je dis, première occurrence de Flaubert, c'est 63. Cela veut dire que je n'ai pas trouvé trace de Madame Bovary, la publication, dans les journaux en Suède, ni du procès. Ça n'apparaît pas. Et j'ai beau chercher sur... Flaubert, Bovary, Sénat, tout, le monde d'avocat, etc. Ça n'apparaît pas. Et ce qui se passe en Suède, pour donner l'arrière-plan, c'est qu'entre à peu près 45 et 75, il n'y a pratiquement pas d'édition du réalisme français, du réalisme choquant, si on veut. On avait déjà traduit Balzac, mais ça s'arrête quelque part 47-48. Et on ne réédite pas non plus. Hein. Ce n'est pas simplement pas de nouvelle traduction, il n'y a pas d'édition. Pareil avec Eugène Sue. On le traduit jusqu'à peut-être 1850. Après, il y a blocage. C'est une sorte de posture extrêmement conservatrice en Suède, idéaliste. La littérature doit édifier, doit montrer le beau, etc. Stendhal n'est pas traduit. Les concours ne sont pas traduits avant 80. Flaubert n'est pas traduit avant 80. Zola, je vais revenir, est traduit en 79. Donc, Daudet est traduit parce qu'il est un peu moins naturaliste, donc quelques romans de 74-75. Mais bon, il y a eu ça. Et il n'y a pas de blocage pour la littérature française, parce qu'il y a d'autres œuvres traduites qui sont donc moins susceptibles de provoquer la morale. Donc, ceux qui sont traduits, bon, à votre avis, bon, c'est Alexandre Dumas, Paul de Kock, voilà, ce type, Georges Sand, sont traduits, mais ce qu'on appelle nous aujourd'hui les réalistes, sont pas traduits. Donc, on entend parler de Bavari, hein, en 1974, c'est quelqu'un qui a entendu une conférence, hein, ça veut dire qu'on ne connaissait pas le titre. On parle du naturaliste Flaubert, et le procès de Madame Bovary, en 1974, mais sans dire de quoi il s'agit vraiment. Il y a eu un procès, on ne va pas entrer en détail. Quand on parle du naturaliste Flaubert, c'est bien sûr, déjà, on commence à entendre parler de Zola en France. Madame de Beauparé, en 78, et Madame de Bovary. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui a tenu une conférence. On voit une notice hier soir, ouais, il y a deux jours, il y a une conférence sur la nouvelle littérature, et on a parlé de Madame de Beauparé. Et, en fait, c'est sûr que Bovary, c'est un nom assez inhabituel, n'est-ce pas? Quelqu'un dit Madame Bovary, Beauparé, c'est quoi Beauparé? Et dans le même compte-rendu, on parle de la tentation de Saint-Antoine, mais c'est L apostrophe à tentation. Parce qu'on ne connaissait pas le titre. Hein. Et c'est précieux de voir ces articles, parce que ce sont pas des journalistes bêtes, hein, ce sont des journalistes bien éduqués, mais ils ne connaissent pas. Donc ça nous dit quand même quelque chose sur le transfert de Flaubert en Suède. De même, quand on dit, c'est un auteur assez peu connu en Suède. Dans mes études sur Zola, j'ai étudié comment on appelle l'auteur. Le fameux Zola, ou il y a un nouvel auteur qui s'appelle, hein, n'est-ce pas? Ça change, le célèbre Zola. Donc c'est toujours un auteur assez peu connu en Suède. On est en 78. Et le premier résumé de roman, je le trouve, 78. Bien sûr, on peut en parler dans les salons, il n'y a pas de témoignage dans les lettres individuelles, mais la presse était... bien répandu à cette époque, hein, en tout cas dans les grandes villes. Il y avait beaucoup de lecteurs, et encore plus vers la fin du siècle. Hein. Donc il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui lisaient la presse. Et normalement, les critiques à cette époque, ils sont très ouverts vers les grandes cultures, c'est-à-dire Angleterre, Allemagne, France. Ils lisaient le français, l'anglais et l'allemand. Hein, c'est-à-dire que c'est des connaissances. Le décès de Flaubert, je trouve deux petites notices. Et encore un indice qu'il n'avait pas de statut. Hein, parce que bah, l'auteur Flaubert est mort 10 lignes. Sinon, oui, ça aurait été beaucoup plus. Avec cette petite réservation, que bien sûr, peut-être qu'ils vont encore numériser encore de quotidiens. On verra d'autres procès. Mais jusque-là, je n'ai pas beaucoup trouvé. Après une autre période, et je suis conscient que ça s'enchevêtre, mais c'est parce que en 77, je trouve le premier grand article sur la nouvelle littérature. Donc, dans un journal, et on dit qu'il faut lire Madame Bovary. C'est une recommandation. Par les femmes. Il dit les jeunes filles ne doivent pas lire Madame Bovary. Il y a même dans un article les femmes au-dessous de 30 ans ne devraient pas lire Madame Bovary. Mais ça, c'est le programme réaliste. On va donc sur le débat en France, le réalisme, le naturalisme. Ça arrive en Suède. Après, ce qui est le plus important, c'est la traduction de l'Assommoir. Parce que c'est la première traduction d'un livre choquant en Suède. Il y a eu ce blocage, ce hiatus. Et cette traduction de cette œuvre qui a causé, n'est-ce pas, en France, certains débats. Ça fait que Zola entre sur la scène littéraire et qu'il domine complètement la scène. Il y a autant d'occurrences quand on cherche Zola, quand je montrais au début, pour Zola que pour les autres auteurs réalistes ensemble. Et Zola est partout, et on connaît aussi les écrits de Zola, on suit Zola aujourd'hui. Zola, il a sorti un article sur le roman naturaliste, romancier naturaliste. Et avec Zola, donc on va aussi voir découvrir plus Flaubert quelque part, hein, Zola au centre. Il y a aussi au niveau national et au niveau scandinave quelque chose qui s'appelle la percée moderne, qui est le naturalisme scandinave. Et ça peut être bien de noter ce terme, la percée moderne, parce que ça commence les années 70 au Danemark, le Danemark en avance sur la Suède, hein, à cette époque. Peut-être aujourd'hui aussi. Et là, il y a plusieurs écrits. Vous connaissez sans doute Ibsen, Une maison de poupées, etc. et plusieurs romans aussi. Et en Suède, c'est Strindberg, bien sûr, un roman qui s'appelle Le Camée Rouge, c'est une satire, et où c'est une sorte le naturalisme nordique, la percée moderne, qui éclate en Suède. Donc 79, c'est vraiment une année clé où on commence ensuite à traduire. On va traduire Madame Bovary, on va traduire Zola. Presque chaque année, il y a une traduction de Zola qui sort. On va traduire les Goncourt. Dans quelques années, on va traduire aussi Maupassant, à partir de 1984. Donc, il y aura donc un autre climat littéraire, les années 80 en Suède, par rapport au réalisme, naturalisme, mais aussi par rapport au féminisme, qui est très fort. Mais il faut bien distinguer ce réalisme, naturalisme nordique du réalisme de Flaubert, parce que c'est un mouvement qui est beaucoup plus proche de Zola, c'est-à-dire qui est un mouvement de débat, de mettre en question, d'engagement social, qu'on ne trouve pas chez Flaubert, hein, le pessimiste, n'est-ce pas? 84, il est le fondateur de l'école réaliste dans la littérature de tous les pays. Quelle différence! Comparé à, c'est un auteur assez peu connu en Suède. En 6 années, c'est le grand auteur. Et je pense que ce sont les écrits de Zola, peut-être le débat en France aussi, n'est-ce pas? Quand Zola émerge, on dit que Zola c'est horrible, Flaubert au moins c'était, Balzac au moins c'était, n'est-ce pas? Et tout d'un coup Flaubert sont rehaussés. Mais c'est ce qui se passe en France aussi, n'est-ce pas? Que oui, Balzac aussi, mais c'était quand même pas comme Zola, parce que Zola c'est même pire. Hein. Et ici, c'est Flaubert qui, en quelques années, acquiert ce statut extrêmement prestigieux. Et on parle de la consécration complète de 85. Et on dit aussi quelque part que durant son vivant, il n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Ce qui confirme un peu ce propos qu'il n'était pas connu là. Donc Flaubert, un peu connu, mon hypothèse, un peu à l'aide de Zola, par rapport à Zola. Si je peux dire un dernier mot sur la présence de Madame Bovary, les dernières décennies, on a monté Madame Bovary au théâtre, on l'a joué à radio, c'est la version de Fay Weldon qui a fait, je pense, un drame de Madame Bovary. Et il y a cette nouvelle traduction dont j'ai déjà parlé, Madame Bovary présent dans les programmes universitaires de littérature comparée, en traduction, bien sûr. Nous, on ne peut pas enseigner Madame Bovary parce que c'est trop difficile, c'est trop long. Pas possible parce que bon, les étudiants n'ont pas le niveau. Et ceux qui ont les niveaux, ils sont très très nombreux. Et on n'a presque pas de cours pour le français. Et quelques perspectives. On a beaucoup souligné en Suède la consommation de Madame Bovary. C'est qu'elle se consomme, c'est superficiel. Et on a mis cela en rapport avec la consommation moderne, même la consommation aussi, c'est-à-dire que commercialisme. Et il y a aussi un ouvrage qui a fait date en Suède, en suédois, de Sarah Danius. Peut-être le mot, ça vous rappelle quelque chose, parce que elle menait l'Académie suédoise, maintenant qu'il y a eu la crise pendant 2 ans. C'est elle qui menait l'Académie suédoise et qui a tenté des réformes. Elle est morte récemment, l'année dernière, mais elle a sorti un livre en 2007 en suédois sur Flaubert. Sur sa façon d'écrire, ça a été un grand succès populaire. Tout le monde trouvait que c'était novateur. En fait, pour être franc, ce n'est pas si novateur que ça. Ça reprend beaucoup de la critique française à partir des années 60-70, que, en fait, Flaubert ne copie pas le réel, mais laisse le réel transpercer à travers la conscience des personnages. Bon, ce n'est pas si novateur que ça. Et elle parle aussi de la consommation féminine. Elle dit qu'avant tout, c'est l'argent, c'est ça qui coûte la perte de Madame Bovary. Elle reprend en Björk, en fait, sans s'y référer, vraiment. Et c'est cette question qui revient dans la mise en scène très récente de cet automne à Göteborg, dans la deuxième ville de Suède, où on a mis en place Madame Bovary qui est sur Facebook, qui va avoir plein de likes, qui est très superficielle, et Berthe qui est une sorte de Greta Thunberg qui a la conscience. Donc on a vraiment politisé ce côté pour moi qui est secondaire dans Madame Bovary, c'est-à-dire qu'il y a l'argent est là pour mettre une fin pratique à l'intrigue, c'était que montrer voilà on peut aller plus loin parce qu'il n'y a plus d'argent, c'est la fin. C'est pour moi, c'est pas un roman sur la consommation, c'est un roman sur le bovarisme, c'est un roman sur autre chose. Mais bon, on a bien exploité ce côté-là, parce que ça montre aussi, je pense, qu'on a du mal à historiciser, bon, je ne sais pas quand on parle le mot français, on a du mal à lire le texte dans son contexte historique en Suède. Hein. On va voir qu'est-ce que Madame Bovary aurait fait aujourd'hui. On déplace l'intrigue, on déplace l'enjeu, voilà. Elle aurait regardé Netflix, elle aurait... Voilà. Choses comme ça. Et j'ai mis un flèche aussi par rapport à cet ouvrage de Danius et la nouvelle traduction de Baudouin, parce que je sais que Baudouin était en contact avec Danius quand il a fait la traduction. Donc il était très conscient des acquis de la recherche sur le style de Flaubert, ce qui peut-être aussi a influencé cette idée de je vais rendre le texte le plus fidèlement possible, dans le sens que je vais garder le plus de très français dans le texte que possible. Voilà, pour conclure, j'espère que ça n'a pas été trop long. Domination et présent de Madame Bovary, hein, depuis bon, quelques années après, bon, tout de suite après la traduction, Madame Bovary reste et toujours une présence de Madame Bovary. Consécration de Flaubert dans les années 80, qu'on a vu un peu, je pense, à l'aide de Zola, une consécration rapide. problématisation des nouvelles traductions par rapport au statut de Flaubert. On n'a pas vu qu'il y a un schéma qui devient de plus en plus fidèle, mais au contraire que c'est la traduction la plus récente qui est la plus fidèle, et aussi la première traduction d'après, il y a une toute autre évolution, selon Monspy. J'ai écrit « prise en otage par l'idéologie courante en » fait, de Madame Bovary, œuvre de consommation, de personnage superficiel qui veut avoir la confirmation par les réseaux, les médias sociaux. Quelques pistes à suivre. J'avais annoncé des pistes de réflexion méthodologique. Je pense que les phases de Flaubert ensuite par rapport à la réception en France, c'est intéressant de voir si on mime la réception en France par rapport à cette culture dominée, par rapport à une culture dominante. Et je pense aussi que ce serait intéressant de voir le mode de traduction dans des pays différents par rapport au statut de Flaubert dans le champ littéraire. Respectif. Est-ce qu'on voit la même chose, qu'on peut voir que Flaubert, pas très connu, on le traduit de façon plus libre, Flaubert a un statut, un prestige, il est consacré, donc on respecte plus ses particularités stylistiques. Voilà, ça pourrait être des pistes à suivre dans cette méthodologie descriptive que j'essaie d'avoir dans cette communication. Bon, c'est tout. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci beaucoup pour cette histoire très fine et nuancée de la réception et de la traduction de Flaubert en Suède, hein, et qui s'accompagnait d'une mise au point traductologique très éclairante. Est-ce qu'il y a des questions soulevées par cet exposé? Oui, Florence.
Plutôt des remarques que des questions. Hein. En fait, j'ai travaillé sur les traductions, alors pas de Madame Bovary, très peu sur Bovary, j'ai surtout travaillé sur les traductions de Bovary Pécuché en italien. En fait, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes un peu du même ordre que ce que tu montres, hein, en termes de réception aussi, et ça correspond aussi à des phases identiques. Et pour Bovary Pécuché, je pense que la traduction qui est la plus fidèle, au sens où tu le fais, tu le dis toi, c'est sans doute la dernière. Donc il y a aussi la question du statut de l'auteur, hein, même si Flaubert a été traduit d'emblée, contrairement au délai qu'il y a pour la Suède, même si Flaubert a été traduit d'emblée en italien. Hein, mais globalement, il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre du retour de la façon de privilégier le texte source. Je pense aussi que, alors je ne sais pas si c'est le cas pour les traductions suédoises, mais pour les dernières traductions italiennes, les traducteurs sont souvent des universitaires et ont travaillé sur les manuscrits de Flaubert. Donc il y a aussi cette utilisation de l'avant-texte qui permet de vérifier certaines opacités du texte flaubertien et de prendre une option de traduction à un moment ou à un autre, ce que les écrivains précédents ne faisaient pas. Là, en ce qui concerne Bouvard et Pécuché, la première traduction italienne, c'est bien la plus libre. C'est-à-dire qu'elle est complètement italianisée. Il y a quelque chose qui est qui est même de l'ordre de, d'une recherche d'une forme de pureté italienne, si tant est que la langue italienne existe.
Ouais.
C'est-à-dire que le traducteur a pris des options qui sont des options de toscaniser le texte italien, avec l'idée que le toscan serait la source de la langue italienne. Donc on est plutôt sur des idées reçues là que sur de la réalité linguistique. Mais c'est ce qui avait les manuscrits qui ont changé considérablement en fait les choix et les options de traduction. Voilà. Et donc il y a ce parcours-là. Et en t'écoutant, je m'interrogeais sur la traduction extrêmement récente de Bouvard et Pécuchet. Alors, du coup, je m'interrogeais aussi sur est-ce que les Suédois sont des lecteurs
pas,
de manière générale.
Pas particulièrement. Voilà, pas comme en France. Des écouteurs maintenant, plutôt. Parce que beaucoup plus. De...
Voilà, parce que du coup, d'abord, c'est quand même très récent, hein, ça a 14 ans, donc c'est vraiment.
Ouais.
Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, c'est pour traduire tout Flaubert, peut-être aussi. Il y avait peut-être une démarche de traduire les œuvres intégrales de l'auteur.
Je pense pour Bouvard et Pécuchet, que là, je n'ai pas en tête. Mais ça ne m'étonnerait pas que ce soit une maison d'édition peut-être un peu plus petite, parce que ça correspond un peu à cette stratégie d'éditer un peu les œuvres qu'on ne connaît pas. Je ne pense pas du tout que ce soit l'idée que maintenant on va couvrir intégrale, parce qu'il y a différentes maisons d'édition qui font paraître les œuvres. Je pense que c'est plutôt on va prendre quelque chose qui est un peu à côté. Et c'est pourquoi on a pris Bouvard et Pécuchet. Et comme on n'a pas retraduit Zola, mais on a traduit, il n'y a pas si longtemps, quelques nouvelles qui avaient été publiées dans des journaux russes. On prend quelque chose de marginal. Et je pense que ça, c'est plus l'explication en Suède. Ce n'est pas une volonté de découvrir, mais c'est d'éditer un peu ce qui n'avait pas été édité. Et en Suède aussi, je pense que c'est que je ne crois pas que les traducteurs travaillent sur les avant-textes. En tout cas, je n'ai pas entendu parler de cette façon de traduire. C'est, et par rapport à toscaniser, c'est plutôt la question pour Zola. C'est la question comment traduire l'argot. C'est une question extrêmement difficile parce qu'ils ont traduit l'argot parisien avec l'argot de banlieue de Stockholm. Ça fait très bizarre dans le cadre, n'est-ce pas? Et la question ne se pose pas pour Flaubert de la même façon. C'est une question intéressante. Sinon, il y a sans doute des phénomènes qui se recoupent. Et ce serait intéressant de comparer justement. Ayant en mémoire donc ces différentes théories par rapport au centre, par rapport à la périphérie, par rapport aux nouvelles traductions, et comme Madame Bovary est tellement traduite, on pourrait vraiment avoir Madame Bovary comme une sorte d'œuvre qui nous permette de vérifier une théorie.
Aussi la question des normandismes dans Madame Bovary, je ne sais pas comment ça se passe du coup dans les traductions, si on cherche des espèces de patois locaux.
Oui, c'est une bonne question. Ça pourrait faire l'objet d'un article.
Ouais, je ne sais pas s'il y a tant d'occurrences que ça des normandismes dans Madame Bovary, mais...
Il n'y a pas tant que ça, parce que dans le sens, c'est pas comme chez Maupassant, il marque vraiment... Puisqu'il y avait chez Flaubert quand même, il faut que ce soit beau. N'est-ce pas, c'était sa grand problème, comment transcrire ce qui est banal. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait beaucoup de langage retranscrit, parlé dans Madame Bovary. Il y a peut-être un vocabulaire, mais pas de choses agrammaticales, je ne pense pas. Pas beaucoup, en tout cas. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Donc, je ne pense pas.
Mais par contre, ce que j'avais pu constater sur Bovary et sur Bouvard et Pécuchet encore plus, termes de travail du texte, c'était que tout le travail qui a été analysé depuis fort longtemps de débalsacialisation qu'opérait le texte flaubertien, en fait, en traduction, c'est tout à fait oblitéré. C'est-à-dire que ça n'apparaît plus du tout. Et il y a un un travail sur les traductions allemandes de Bouvard et Pécuchet, qui est d'ailleurs en ligne, qui avait été fait par Loïc Vindels, et qui montrait en fait que le traducteur revenait à un état du texte, proposait la traduction d'un état du texte auquel Flaubert avait abouti dans son travail, et puis qu'il avait refusé à un moment donné. Donc il y avait un retour finalement du refoulé balzacien dans la traduction qui s'opérait. Ce qui fait que ça peut aussi... Alors évidemment, Madame Bovary, c'est sans doute le personnage qui domine, parce qu'elle a vécu sa vie loin même du texte. La stature du personnage n'a presque plus besoin de l'ouvrage pour être reconnue, en tout cas en Europe. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, l'originalité flaubertienne, ce qui fait que le français reconnaît une particularité à Flaubert en regard des auteurs précédents, ben en fait, pour les gens qui ne le lisent qu'en traduction, ou dans certaines traductions, ça disparaît complètement. C'est-à-dire que finalement, Flaubert, ce serait un super Balzac ou quelque chose comme ça. Donc ça, sans vouloir être normative sur la question de la traduction, en tout cas, ce qui m'est apparu, c'est qu'il y avait là une réelle difficulté, et une réelle difficulté d'appréhension de la spécificité même du texte flaubertien à partir du moment où on essayait un transfert culturel et linguistique, et que, indépendamment des contraintes de la langue cible, qui imposait certaines choses plutôt que d'autres, il y avait aussi toute une sphère de réception qui faisait que... Parce que le texte flaubertien est problématique quand on le lit pour un français.
Oui.
On n'a pas besoin de faire un transfert culturel
tout à fait.
Pour que ce soit problématique. Oui. Du coup, quand il y a en plus le transfert culturel et linguistique, jusqu'à quel point on peut aller et jusqu'où l'audace est permise, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Et Baudouin, donc la traduction la plus récente, il explicite pratiquement pas. Mais il y a un lexique à la fin pour expliquer ensuite certains phénomènes culturels. Mais il y a d'autres traductions, encore, je renvoie encore une fois à Morspach, et elle montre que, voilà, que le traducteur ajoute une petite explication pour qu'on comprenne quel type d'objet il s'agit, par exemple, quel type de coutume. Et Baudouin, il a travaillé pendant 5-6 ans avec cette traduction, au moins. Il a traduit longtemps, c'est un projet qu'il a... Et c'est un des meilleurs traducteurs en Suède. Et je pense qu'il travaille sur l'éducation mentale depuis 5-6 ans aussi.
Il a traduit qui, à part Flaubert ?
Il traduit du français et du polonais, je pense, parce qu'il a travaillé en Pologne. Donc je pense qu'il a traduit beaucoup. Mais il n'a pas... Je ne sais pas s'il a traduit beaucoup, mais il traduit... Il est très renommé comme traducteur. Mais c'est sûr que les particularités, c'est difficile de traduire quand on arrive à cette question de jargon. Si on prend le Balzac ou Maupassant, où il y a l'accent allemand, par exemple, en suédois, l'accent allemand est très comique. C'est un peu comme l'accent belge en français. C'est un peu l'accent belge, et c'est peut-être pas aussi l'effet voulu. Hein. Donc, comment faire? Ou est-ce que, en plus, France-Allemagne, il y a une certaine relation historique. Est-ce qu'on va traduire par accent danois en Suède ? Parce que la Suède-Danemark, c'est pareil. La Suède-Danemark, c'est comme la France-Allemagne. Donc, ce sont des questions extrêmement difficiles. Et encore, c'est pourquoi je n'apprécie pas trop ces études qui se centrent sur tel passage, c'est mal traduit. Parce que je trouve qu'il y a tant de problématiques autour de traduction que c'est un peu trop facile de pointer le doigt sur tel symbole pas compris. Voilà.
Et disons, plutôt que de pointer en disant ça c'est mal traduit, ce qu'on peut faire c'est pointer en disant voilà ce que ça traduit, ou voilà ce que ça donne à voir.
Oui, tout à fait.
Sur tout un dispositif global de transfert, d'appropriation, de transfert des
pouvoirs. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr.
C'est effectivement intéressant.
Oui, je pense que c'est la grande question. Et comme tu dis, il y a une question de transfert historique en France aussi. C'est pas sûr que les Français d'aujourd'hui comprennent Zola ou Balzac, n'est-ce pas ? Il y a 500 notes dans La peau de chagrin. Non ?
C'est... Deux courants. littérature idéaliste, voilà, le divertissement qui est bien reçu, puis la littérature réaliste scandaleuse qui émerge un peu plus tard. Et je me demandais ce qu'il en était de Victor Hugo dans ce panorama, première question. Et deuxième question, c'est par rapport à la notion même de réalisme à laquelle vous avez dit que vous réfléchissiez. C'était au sujet de vos remarques sur l'élagage.
Ouais.
Et
ouais.
J'étais sensible à votre, votre commentaire sur le fait qu'il n'y avait pas finalement de. Ce n'étaient pas des passages réputés nécessairement scandaleux ou provoquants qui étaient systématiquement coupés, mais qu'il y avait plutôt une. Une stratégie globale, l'élagage du texte, et je me demandais si vous en tiriez des conclusions esthétiques peut-être sur finalement ce qui pourrait être le véritable scandale du réalisme, à savoir sa lenteur et sa touffeur, et non pas finalement la question de la représentation ou du scandale au sens le plus immédiat et superficiel du terme.
Par rapport à Hugo, j'ose pas affirmer positivement, mais il me semble que Hugo fait partie des auteurs qui sont traduits, parce que c'est moins choquant, tout simplement. On peut aisément vérifier, je peux le faire tout à l'heure en cherchant sur ce Libris, et on cherchera chronologique, on verra Hugo. Hein. Et je ne connais pas sa réception en tant que est-ce qu'on le loue ou pas, mais... tout me porte à croire qu'il sera bien reçu en tant qu'il représente la culture française qui était vraiment bien vue en Suède, parce que la France, à cette époque, était le grand pays culturel. Hein, c'était la référence. Et il y a eu le choc après avec l'affaire Dreyfus. On dit que en tout cas, c'est la catastrophe d'un pays, maintenant c'est le pays du scandale. Donc je pense que Hugo s'inscrit parfaitement dans cette grandeur de la France et de la culture, c'est ce que je crois. Par rapport à cette idée de délaguer, je souligne que c'est une hypothèse de ma part, hein, mais je ne trouve pas mieux pour expliquer, parce que, notamment dans l'Assommoir, où c'est plus visible, on peut avoir six répliques entre deux personnes, et bon, il y a deux répliques qui ne sont pas traduites, parce que ces répliques ne sont pas forcément plus choquante que les autres. Donc je ne vois pas de systématique, effectivement. Et quand j'avais présenté cela à l'autre séminaire, séminaire Zola, je crois qu'il y a Philippe Amand qui a dit que tout ça qui est enlevé, c'est exactement ça qui fait la particularité de Zola. Hein. C'est carrément tout ce qui est des détails du réel, les choses choquantes. Et est-ce que c'est ça un peu aussi le réalisme, le fait d'accumuler tant tant d'éléments du réel? Oui, peut-être, hein, parce qu'on dit que le réalisme est choquant, mais il existe bien sûr des choses choquantes dans d'autres œuvres aussi, mais pas de la même taille, si c'est ça votre question, votre réflexion. Et je pense que c'est au moins, il y a un lien entre la masse, l'accumulation du choc, si vous voulez, des choses choquantes et le réalisme, et pas le peut-être. Peut-être pas tel élément pris isolément. Et je pense que c'est ce qu'on dit aussi dans le procès de Madame Bovary. C'est pas tel détail, c'est l'ensemble qui choque. Hein. Même s'il y a des détails qui choquent, comme dans le fiacre, la main dans le fiacre. Donc je pense que, au fait, en étudiant ces versions qu'on a, comme je dis, élaguées, qu'on a censurées un peu, je pense que ça fait comme une sorte de grille de lecture qui fait ressortir des particularités justement typiques du réalisme. En fait, c'est ça. La traduction nous met sur la voie pour voir un peu l'essence du réalisme. Je pense que dans ce sens, un outil pratique, utile pour saisir tel courant. Voilà. C'est à peu près ça que...
Vous avez dit qu'il n'y avait pas de censure finalement des scènes sexuelles, pas spécialement. Est-ce qu'il y a une forme de censure par exemple par rapport à la question religieuse, puisque ça fait partie finalement des chefs d'accusation au moment du procès, notamment ce mélange du sacré au voluptueux, comme le dit Ernest Pinard au moment du procès. Est-ce que cette question de la religion, dans le climat suédois, ça a un sens particulier et ça suscite une réception et une traduction particulière?
Je ne pourrais pas dire en général parce que, quand je dis déjà, il n'y a pas de censure. C'est plutôt donc l'éditeur et le traducteur qui influencent cela et qui décident cela. Je pourrais donner l'exemple de l'Assommoir et du Germinal. Bien sûr, Germinal, ça sort un peu quelques années plus tard, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Mais il y avait un traducteur très ambitieux qui a traduit en détail, qui est allé dans les mines en Suède pour avoir le bon terme. Il y a un éditeur très libéral et il n'y a presque pas de censure omission. Il n'y a qu'une scène qui est censurée dans tout Germinal. Alors que dans l'Assommoir, un peu par-ci par-là, c'est une traduction anonyme. Par-ci par-là, on enlève. Par rapport à la question de la religion, oui, ça pourrait absolument porter atteinte à ce que j'appelle la censure, les omissions. Mais il faudra voir, de près. J'ai l'impression que c'est plus les scènes lascives, en tout cas, qui posent problème. Dans ce que j'ai vu, la violence et les violences verbales, violences physiques et tout ce qui est corporel, ça pose plus de problèmes. Mais encore une fois, il y a un climat littéraire, il y a un champ littéraire. Mais comme j'ai dit dans un autre article, il y a des variables là-dedans. On ne pourra pas dire qu'à cette époque, c'est toujours de telle ou telle façon. Donc il faudra étudier plus ou moins chaque traducteur, parce que ce traducteur Lundqvist, il était prolifique, il a fait énormément de traductions, et même les gens à cette époque auraient dit que j'ai envie de lire un Lundqvist. C'est-à-dire, parce qu'on savait que ces traductions étaient faites d'une certaine façon, donc on connaissait son style. Vous voyez que le facteur individuel est tellement important que je ne pourrais pas dire par rapport à la religion. Mais je pense que c'est plus vers le corps. Corps, sexe, désir, qui pose plus de problèmes dans une Suède très, très protestante, très prude, très idéaliste. Je pense.
Bien, merci à tous. Et bon confinement. J'espère que la séance prochaine pourra avoir lieu. Elle aura lieu a priori le 25 avril avec l'intervention sur Bourdieu de Judith Lioncamp qui parlera de Bourdieu comme passeur de Flaubert dans les sciences sociales.